Gaston Leroux, L'homme qui revient de loin, chapitre 1, Jacques et Fanny. Suivi de son caddie porteur de cyclopes, Jacques Monda de la Bossière rentra triomphant au château. Il ne s'était point cependant mêlé à la partie et ne pouvait ce jour-là tirer quelque orgueil de son adresse. Mais son nouveau terrain de golf avait eu un tel succès. Il est vrai qu'il y avait mis le prix, n'ayant pas hésité à jeter par terre quelques bons arpents de ce coin de la forêt de Sénart qui faisait partie du domaine. Et ma foi, il en usait avec ce domaine comme s'il lui appartenait, le soyant en véritable propriétaire, l'embellissant, ne reculant devant aucune dépense. Après une rapide caresse à deux magnifiques lévriers, champions de coursing, que le valet de chien ramenait au chenil, l'exercice terminé, Jacques, léger de toute sa jeunesse, de toute sa santé et de toute sa bonne humeur, traversa le vestibule d'un bond, escalada l'escalier monumental qui conduisait aux appartements du premier étage et frappa à la porte du cabinet de toilette où Madame était enfermée avec sa femme de chambre. « On n'entre pas !» protesta une voix jeune et harmonieusement timbrée, bien qu'elle affichât un léger accent britannique. Mais Jacques dit « Oh, vous savez que les Saint-Firmin sont là !»« Ce n'est pas possible !» fit entendre aussitôt la voix d'or. « Le vieux notaire lui-même ?»« Et sa jeune femme, reprit Jacques, bien changée la belle marde, vous verrez, chère Fanny, ils dînent ici ce soir. » Et l'annonce de la présence, cependant bien humble, d'un couple notarial, parmi les autres généralement très mondains de la roseraie, fit que la porte s'ouvrit sans plus tarder. Non, mais que se passe-t-il donc, darling ? Demanda Fanny en attirant son mari près d'elle. C'était une très belle et très aimable et charmante et captivante personne que Fanny aux cheveux rouges, la femme de Jacques. Et si drôle en ce moment, avec une mèche flamboyante sur l'œil gauche et un étonnement si singulier dans l'œil droit, et toute sa frimousse de lait, son coup de cygne, sortant de le maillotement hâtif du peignoir de toilette. « Oh, my dear !» Elle n'était pas anglaise du tout, mais tenait à en avoir l'air, qui lui allait très bien. Elle se laissa tomber sur une chaise et pria Catherine, que l'on entendait à côté dans la penderie se battant avec l'armoire aux robes, de les laisser un instant. Un amour de femme de chambre, anglaise vraiment, traversa la pièce sur ses souliers légers, dans sa courte robe noire, qu'égayait le petit tablier blanc garni de dentelles. Quand ils furent seuls, les deux époux restèrent un instant silencieux, se regardant, et il ne paraissait point que ce leur fût là un spectacle désagréable. Ils formaient un beau couple, comme on dit, grand tous deux. La taille de Fanny était fameuse pour le tango, et quand Jacques l'enlaçait, tel un amoureux sentimental qu'il n'avait cessé d'être, cela formait un groupe inspiré, un sculpteur en quête de sujet pour pendule. Ils ne cachaient à personne la satisfaction qu'ils avaient de s'aimer, surtout dans cet admirable cadre de la roseraie qui semblait avoir été fait pour eux. Alors les Saint-Firmin, mais par quel hasard ? Demanda la jeune femme. Justement, émit Jacques avec un sourire, dois-je attribuer leur visite à mes hasards ? Ainsi faisait-il allusion à cette partie du terrain de golf où l'architecte a accumulé les difficultés du jeu. Marthe ne manquait jamais une partie du temps d'André, fit remarquer Fanny de sa voix claire et candide. Oui, ils étaient de bons amis, ajouta Jacques, en ne cessant de regarder sa femme, qui paraissait toute préoccupée. A-t-elle parlé de lui ? Pas un mot, mais le vieux, lui, après avoir approuvé, sans que je lui eusse demandé, du reste, toutes les modifications que j'avais apportées au château et à ses dépendances, a trouvé le moyen de me dire avec le sourire que tu sais. Votre frère André, quand il reviendra, ne le reconnaîtra plus. À ces mots, Fanny sursauta. Notaire de malheur, s'écria-t-elle. Et elle continua dans une fureur charmante mais sincère. Ah, ils en crèvent, petite chérie. Je vous dis qu'ils crèvent tous de jalousie. Vous entendez tous, toi, indeed. Ah, si André revenait demain, comme il serait heureux. Avec quelle joie il nous verrait retourner à Héron. Eh bien, on lui rendrait son château, si on le lui rendrait. Ce serait bien dommage, petite chérie, mais bien dommage, je dis, mais un si beau château, si confortable, mais vous seriez si content, vous, de revoir votre frère, mon Jacques. C'est vrai, répondit Jacques d'une voix grave. Bienheureux, Fanny. Il faut pourtant vous faire à l'idée de sa mort, petite chérie, si vous êtes raisonnable. Elle avait dit cela presque cruellement, avec une hostilité dont Jacques voulut bien être surpris. « Mais qu'avez-vous ? » lui demanda-t-il. « Et pourquoi insistez-vous sur une hypothèse que j'ai toujours repoussée avec horreur ?»« Vous êtes un sentimental, good fellow, » reprit-elle aussitôt avec sa voix de caresse. « Et vous me plaisez bien ainsi. » Cependant, y a-t-il de ma faute, darling, si votre frère, depuis 5 ans, n'a point donné de ses nouvelles? Et pourtant, il aimait bien ses enfants. Pauvre petite Germaine, pauvre petit François, qui n'ont plus d'autre bon papa que vous, my love, et d'autre vilaine petite maman que moi. Vous aimez bien votre petite famille, comme votre propre fils, Jaco, darling, mais vous n'aimez pas beaucoup votre petite femme, pour désirer qu'elle quitte toutes ces belles choses qui y vont si bien. Ce beau château, ce beau parc, ces beaux appartements, cette belle salle de bain, ce beau cabinet de toilette. Elle faisait le baby, elle s'était levée doucement et habilement, s'était glissée sur ses genoux et l'enivrait déjà de son parfum et du mouvement agile de ses doigts dans la volute de ses beaux cheveux épais et fins autour de l'oreille. Mais nous ne sommes plus pauvres, ma Fanny, maintenant. Vous serez belle et toujours heureuse, même si nous devions quitter la roseraie. Oh, c'est la roseraie que je veux, et c'est la roseraie que les autres nous envient. Une royale propriété, darling. Qu'est-ce que vous avez répondu au vieux Saint-Firmin quand il vous a parlé du retour de votre frère, petite chérie? Oh, je lui ai répondu. Oh, je suis sûr qu'André, quand il me ferait la joie de revenir, me félicitera autant des améliorations que j'ai apportées à la roseraie qu'il sera heureux de la prospérité de son usine de Héron. Ah, oh, ça c'est tapé, petite chérie, s'exclama-t-elle. En vérité, de quoi André se plaindrait-il? Depuis son départ, vous avez su faire rendre à l'oxyde de thorium son maximum de lumière. Et si je ne connais rien de plus beau que le château de la Roseraie, je ne sais rien, petite chérie, de plus pratique que le manchon incandescent Céon, le seul, mesdames et messieurs, l'unique qui puisse rivaliser avec le soleil et la lune, mon amour. Elle embrassa Jacques en riant et en entraînant tout doucement jusqu'à la fenêtre. Située en avancée sur l'aile droite, cette fenêtre permettait d'admirer l'imposante et somptueuse silhouette du château Louis XIV, au mur percé d'une multitude de fenêtres à meneaux ornées de sculptures mythologiques, de têtes de lions en bosse, d'effigies en marbre patinées par le temps. Aux quatre coins s'élançaient les tours énormes qui donnaient à l'ensemble une majesté incomparable. À leurs pieds, c'étaient les douves, les ponts de pierre conduisant aux pelouses magistralement dessinées, à la roseraie magnifique, au parc, au bois, à la forêt immense, déjà touchée par l'automne, et qui se dorait aux rayons du soleil couchant. Il me semble, petite chérie, que tout cela est à nous. Oh, que je ne pourrai jamais quitter tout cela. Jacques embrassa sa femme. Quel enfant vous êtes! Je ne me revois pas dans notre appartement de Héron, reprit-elle en secouant ses boucles rouges. Oh, nous y avons pourtant été heureux, exprima Jacques. Très heureux, quand André nous y donna l'hospitalité à notre retour de Saïgon. Oh, je me demande comment on peut être heureux de recevoir l'aumône, mit-elle en retournant à sa toilette et en tripotant nerveusement les frêles objets précieux à sa beauté. Il la gronda et lui rappela leur détresse. Ils s'étaient connus au Tonkin et s'étaient mariés là-bas. Elle, fille d'un planteur dont les affaires ne prospéraient guère et qui avait été élevée assez librement dans la fréquentation quotidienne de jeunes misses très riches, qui avait exaspéré chez elle un ardent besoin de luxe, et lui, que l'on croyait puissamment riche comme son frère, mais qui en réalité avait gaspillé son patrimoine dans des entreprises de caoutchouc. Il avait été littéralement dépouillé par des formans de la Côte d'Ivoire, aidé par des hommes d'affaires de Paris. Il était venu pour se refaire au Tonkin avec d'utiles recommandations et tout de suite était tombé amoureux de cette jolie Fanny qui lui donnait son cœur et sa main, croyant conclure une bonne affaire. Il l'aimait tellement et avait eu si belle peur de la perdre qu'il n'avait pas hésité à la tromper, à lui mentir. Mais quand elle sut la vérité, ce fut un beau tapage. Mais elle lui appartenait, et un enfant, le petit Jaco, venait de naître, et ils étaient si jeunes tous les deux. Enfin, ils s'aimaient assez pour ne point désespérer tout à fait de l'avenir. En attendant, il fallait vivre. André, resté veuf avec deux enfants, avait écrit « Mais viens donc avec ta femme, il y a de la place pour vous à Héron. » Et tu pourras m'être utile. » Et ils étaient venus. Les mondats de la Bossière avaient donné longtemps à la France d'honnêtes magistrats et de valeureux guerriers, mais en ce siècle de difficile, où dès que l'on ne possède point les revenus de quelques millions, on est pauvre, ils n'avaient pas hésité à se tourner vers le commerce et l'industrie privée, ce qui, après tout, est bien aussi honorable que d'aller vendre son nom en Amérique, et ce qui est même plus sûr, quand on appartient qu'à une bonne petite famille du Béarn. André, l'aîné de Jacques de 10 ans, était sorti de Polytechnique sous un bon rang et était entré tout de suite dans l'industrie privée. Ayant eu la chance de rencontrer sur sa route un pauvre inventeur, il l'avait convenablement dépossédé de son fameux manchon, le manchon Héron, selon toutes les règles encore maintenant en usage, et grâce auxquelles de bons petits capitaux se multiplient à l'infini, cependant que l'inventeur et sa famille meurent de faim, ou à peu près. André n'était point cependant un méchant homme, mais les affaires sont les affaires. La preuve qu'il n'était point un méchant homme, c'est que ses enfants l'adoraient, et qu'il n'avait pas hésité à tendre une main secourable à son frère. Il n'eut du reste point à s'en repentir. Désireux de se rendre utile, Jacques s'était donné corps et âme au manchon à incandescence, si bien que ses appointements, qui étaient de 6 000 francs lors de la première année, furent portés à 12 000 la seconde. Mais ils restèrent à ce chiffre la troisième, et il y avait quelques probabilités que le jeune ménage continuerait longtemps encore à se contenter pour vivre de ses misérables 50 louis par mois, quand des événements surprenants étaient venus bouleverser l'existence de chacun à l'usine et au château. Chapitre 2. Un départ précipité. Tout en se mettant du rouge, Fanny revécut le fameux soir où, après dîner dans la salle à manger de leur petit appartement de Héron, après une triste discussion où les deux époux s'étaient dit quelques vérités assez amères, André était entré tout à coup, secouant leur lamentable accablement. Il était effroyablement pâle. Ah, elle se rappelait tous les détails, toutes les paroles échangées, tout. André était, comme Jacques, de haute stature et généralement donnait une impression de force. Or, ce soir-là, il tremblait et il avait un pauvre visage désespéré qui faisait pitié. En le voyant dans cet état, ils s'étaient levés tous deux, effrayés. « Qu'y a-t-il ? Il y a... » Mais il ne put tout d'abord en dire plus long, et il s'était affalé sur un siège, arrachant son faux col, respirant longuement. Et comme Jacques s'inquiétait, il avait fini par le rassurer d'un geste. « Non, non, il n'était pas malade. » Mais d'où reviens-tu? Que t'est-il arrivé? Il ne m'est rien arrivé, rien, non, seulement voilà. Je suis obligé de partir. Partir? Pas pour longtemps. Est-ce qu'on sait, un voyage? Tu vas voyager et où? Il faut que j'aille en Amérique pour les affaires. Pour les affaires. « Mais il n'y a rien là que de très naturel. Pourquoi t'émeus-tu à ce point ?»« C'est l'idée de quitter la roseraie et les petits, tu comprends ? L'idée de quitter Germaine et François. »« Veux-tu que je parte à ta place, si c'est possible ?» avait demandé Jacques. « Non, non, c'est pas possible, » avait répondu André avec un soupir. « Ça n'est pas possible, c'est moi qui dois m'en aller. »« Eh bien, pourquoi n'emmènes-tu pas les enfants avec toi ?»« J'y ai bien pensé, mais en ce moment, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, non. Plus tard, je t'écrirai de me les amener dans quelques mois. »« Dans quelques mois ?» Ne me demande plus rien, mais en attendant, soyez-les bien, n'est-ce pas? Aime-les bien. Et il avait ouvert les bras et les deux frères s'étaient donné une longue accolade. Je ne puis rien vous dire d'autre, avait-il ajouté après un silence. Sinon que je pars cette nuit, que je vais à Paris prendre le train de Bordeaux du matin et que dès maintenant, je te mets toi, Jacques, à la tête de mes affaires. Ce sera toi, le patron, ici. Vous habiterez la roseraie. Vous me remplacerez en tout. Voici les papiers qui donnent à Jacques plein pouvoir et qui fixeront sa part dans les bénéfices. Tout est en règle, je sors de chez le notaire. Ah, tu reviens de Juvisy. Oui. Ceci avait été dit d'un ton très sec, comme pour couper court à tout commentaire et à toute explication. Fanny et Jacques avaient échangé un rapide coup d'œil et n'avaient plus soufflé mot. « Examine ces papiers, » avait dit encore le frère. « Moi, je retourne au château. À 4 heures du matin, je serai ici. Nous signerons notre accord et je prendrai l'auto ici. » pour me rendre à Paris. Préviens le chauffeur. » Là-dessus, il avait poussé un profond soupir et s'étant levé, avait gagné la porte. Celle-ci n'avait pas été plus tôt refermée que Fanny se jetait au cou de son mari, incapable de retenir plus longtemps la joie, l'allégresse, le délire qui la transportait. Au fond, elle détestait André, qui ne leur avait point fait près de lui la place qu'il méritait, pensait-elle. Mais quelle aubaine que ce départ et quelle histoire! Oh, petite chérie! Elle avait repris tout de suite son accent britannique qu'elle négligeait depuis quelque temps, le trouvant déplacé dans l'humble condition qu'ils occupaient. Jacques avait eu de la peine à calmer cette exaltation. Attends au moins qu'il soit parti. Mais quand ils eurent aperçu à travers les vitres de la salle à manger André remontant dans sa charrette anglaise, ils s'étaient précipités sur les papiers, les avaient lus, dévorés. Un tiers sur les bénéfices, un tiers, c'était la fortune. Et tout était en règle. Tout avait été admirablement préparé, rédigé, on avait pensé à tout. Il n'y avait plus qu'à signer, et Jacques avait signé d'un paraphe triomphant, tandis que Fanny riait derrièrement derrière lui. Et vous pensez, petite chérie, avait-elle dit, qu'un arrangement pareil, ce n'est pas pour 2 jours. Il a dit des mois. Ne pensez-vous pas, petite chérie, que ceci a l'air d'un testament? Oh, un peu, avait répliqué Jacques. Mais que peut-il donc lui être arrivé? Ben, ce qui lui est arrivé est tout récent, car je l'ai encore vu à 6 heures à l'usine et il ne m'a parlé de rien. Il ne paraissait point craindre ou espérer quoi que ce fût de nouveau. C'est inimaginable. Et cependant, il a fallu que ce fût vite fait pour qu'il ait eu le temps de courir chez son notaire à Juvisy et de tout régler avec le vieux Saint-Firmin. Une histoire de femme? Avait émis Fanny. Jacques avait secoué la tête, il ne le pensait pas. Quelle femme! André était un père de famille modèle et qui était resté fidèle au souvenir de la maman de Germaine et de François, pour laquelle il avait eu un véritable culte. Certes, parmi les hôtes de la Roseraie, il y avait souvent des femmes très élégantes et aussi très coquettes, mais André ne semblait point en avoir distingué quelqu'une et se montrait aimable avec toutes indifféremment. Dans les derniers jours, on avait un peu jasé parce qu'il avait appris à la jeune femme du vieux Saint-Firmin, le notaire de Juvisy, à se servir d'un club, mais la parfaite correction de son attitude en toutes circonstances avait éloigné les soupçons. Du reste, le Saint-Firmin s'était mis à jouer au golf, lui aussi, et on avait fini par rire du jaloux, sans croire à la réalité d'une aventure qui aurait été du reste assez peu reluisante pour un mandat de la Beaussière. Et puis l'ex-pupille du vieux Saint-Firmin, devenue son épouse au sortir du couvent, avait conservé toutes les grâces naïves de la jeune fille et semblait ignorer encore toutes les coquetteries de la femme. Quoi qu'il en fût, depuis le départ d'André, le couple n'était plus jamais revenu à la Roseraie, bien qu'il y fût souvent invité, et cela plus d'une fois avait donné à réfléchir à Jacques et à Fanny. Pour en revenir au fameux soir, André s'était présenté à l'heure dite, Jacques et Fanny l'attendaient. Ils ne s'étaient point couchés. Il leur parut qu'André avait recouvré un peu ses esprits. Il n'avait plus cette pâleur qui les avait effrayés. Il était moins agité, il paraissait déjà avoir pris son parti du mystérieux événement qui le chassait de la roseraie. Il s'était montré presque tendre avec Fanny, lui recommandant une dernière fois les enfants, lui faisant promettre qu'elle se considérait comme leur maman pendant tout le temps de la séparation dont il ne pouvait prévoir le terme. Il l'avait engagée à s'installer au château dès le lendemain et à s'y considérer absolument comme chez elle. Au moment de partir, il avait accepté la proposition de Jacques qui lui offrait de l'accompagner au moins jusqu'à Paris. T'as raison, viens, nous avons encore à parler de l'usine et puis j'ai quelques dernières recommandations à te faire. Pour être plus tranquille, laissons le chauffeur. Et ils étaient partis tous deux dans l'auto. Fanny la voyait encore s'éloigner dans la nuit, avec son feu arrière, et la grosse masse sombre de la marche jetée sur la malle d'André pour la préserver de la pluie fine qui tombait. Ensuite, la jeune femme s'était allongée sur un canapé et avait essayé de fermer les yeux. Mais elle était trop énervée pour goûter quelque repos. Une étrange agitation la secouait, la jetait tout à coup sur ses pieds, la faisant courir près de son fils qui dormait d'un sommeil paisible. Elle eût voulu qu'il se réveillât, elle eût voulu ne pas être seule, elle eût voulu ne pas penser, elle avait peur. Et elle ne savait pas de quoi. Les heures lui avaient paru interminables. Mais que faisait donc Jacques? Pourquoi n'était-il pas déjà revenu? Elle calculait. Il aurait pu être de retour depuis une demi-heure au moins. Le front à la vitre, l'oreille tendue, le regard aigu, elle avait assisté, frissonnante, au lever de la pâle aurore d'un jour humide d'automne, tout emmitouflé des buées matinales. Et soudain, elle avait tressailli, car elle avait vu sortir de cette vapeur l'étrange figure, bien connue dans la contrée pour jeter le mauvais sort, du sourd-muet Prosper, un pauvre homme qui vivait en reclus dans la forêt, au fond d'un trou de grotte dont il avait fait sa demeure. Bancal, il se traînait sur des béquilles, faisait des kilomètres pour rencontrer quelqu'un qui ne s'enfuit pas à sa vue, comme devant la peste, et voulut bien abandonner quelque aumône. Il se risquait quelquefois jusqu'à Héron, jusqu'à la Roseraie, où la charité d'André et de Jacques lui permettait d'aller mendier aux cuisines. Bien qu'elle ne fût nullement superstitieuse, Fanny, ce matin-là, était dans un état d'esprit tel qu'il lui sembla que, du bout de sa béquille qu'il agitait comme un possédé, Prosper lui envoyait du malheur. Et l'angoisse de la jeune femme n'aurait certainement fait que grandir si l'auto n'était enfin revenue, conduite par Jacques, qui apercevait tout de suite Fanny derrière sa vitre et lui envoyait des baisers. Il rentra à l'auto lui-même, dans le garage au-dessus duquel se trouvait justement leur appartement. Il avait sauté de la voiture, ouvert les portes du garage avec une ardeur juvénile, une sûreté de mouvement, une joie de vivre parfaite. Et là-haut, Fanny s'était mise à rire, à rire, à rire, comme tout à l'heure. Elle avait tremblé de peur sans savoir pourquoi. Peut-être tout simplement parce qu'elle avait remarqué qu'il y avait toujours sous la marche, derrière l'auto, une grosse masse sombre, et qu'elle avait pu craindre que ce fût toujours là la malle d'André, et qu'André ne fût pas parti. Imagination, qui évidemment était bien faite pour lui secouer les nerfs. Suis-je bête, se disait-elle, suis-je bête? Jacques aura rapporté quelque chose de Paris. 5 minutes plus tard, Jacques était dans ses bras. Alors ça y est, il est parti. Pour longtemps, dit, raconte, petite chérie, raconte. Mais Jacques n'avait rien à dire que ceci. André avait pris le train de Bordeaux, et toutes les paroles qu'il avait prononcées durant le court voyage laissaient entendre que son absence durait au moins 1 an, 2 ans peut-être. Une active correspondance devait être échangée entre les deux frères. Aussitôt arrivé en Amérique, il doit m'écrire longuement, et sans doute alors consentira-t-il à nous expliquer sa conduite. Après quoi Jacques avait déclaré qu'il mourait de faim, que la douleur de cette séparation avait sérieusement creusé et qu'il mangerait bien la moitié d'un poulet froid arrosé d'une bonne bouteille de Bourgogne. La bonne bouteille, il se chargerait d'aller la chercher lui-même. Il prit ses clés et descendit à la cave. Fanny se rappelait avec quelle vivacité Jacques avait dévoré ce matin-là et avec quelle facilité il avait vidé sa bouteille, lui ordinairement si sobre. Il avait eu l'occasion, sur une question de sa femme, de répondre aux préoccupations de celle-ci relatives à la grosse masse sombre. C'était un panier de manchons qu'une grande maison de Paris avait refusé à cause d'un défaut de confection et qu'il avait rapporté lui-même de leur magasin de la rue de Rivoli. Enfin, il s'était levé, avait serré longuement sa femme dans ses bras et s'était écrié « À l'ouvrage !» et il descendit aussitôt à l'usine. Jamais il ne lui avait donné une pareille impression de santé et de force. Dans le pays et à l'usine, tout le monde fut stupéfait du brusque départ d'André, mais l'étonnement arriva à son comble quand, au bout de 3 mois, l'absent n'eut pas encore donné de ses nouvelles. Jacques, sur le conseil du notaire qu'il était allé trouver à plusieurs reprises dans son étude de Juvisy, s'était alors adressé au parquet. Il avait raconté au substitut du procureur de la République toutes les circonstances étranges de la fuite de son frère. Immédiatement, une enquête avait été ordonnée, enquête qui suivit André avec Jacques jusqu'au train de Bordeaux. Les employés de la gare avaient vu et reconnu Jacques et André, car ceux-ci prenaient assez souvent le train pour Juvisy, et l'on put préciser que c'était bien le matin du départ d'André. On les avait remarqués au guichet et sur le quai. Bien mieux, un facteur avait vu Jacques revenir seul du quai, sortir de la gare et remonter dans son auto et partir. Et puis plus rien. C'était le mystère. Plus de traces d'André dans un train, pas plus que sur un bateau. Le parquet avait conclu, après examen des papiers laissés par l'absent et interrogatoire du vieux Saint-Firmin, qui semblait avoir eu la pleine confiance du voyageur dans ses derniers arrangements, qu'André, pour des raisons inconnues, avait voulu disparaître et, pour un temps indéterminé, puisqu'il avait encore pris la précaution la nuit du départ d'écrire à l'institutrice des enfants, Mademoiselle Hélier, pour lui confirmer la confiance qu'il avait en elle et lui attribuer la direction de l'instruction de Germaine et du petit François pendant tout le temps de son absence, si longue fut-elle. Le parquet estimait qu'André avait voulu tromper tout le monde en parlant d'un voyage à Bordeaux et en Amérique. Le voyageur devait être descendu à quelques stations avant Bordeaux. Bref, pour la justice, l'absence était volontaire et le parquet s'en désintéressa. Fanny en était là de ses souvenirs, et Jacques, silencieuse à ses côtés, semblait être plongé lui aussi dans des pensées bien profondes, quand le bruit d'une querelle d'enfants venue de l'ancienne nurserie, transformée en salle de jeu, leur fit dresser la tête. Ils entendirent distinctement la voix du petit François qui criait « Le château n'est pas à toi, le château il est à moi !» N'est rien ici. Ton papa n'est rien, ta maman n'est rien. Vous êtes tous des domestiques de papa. » En proie à une irritation folle, l'enfant accompagnait cette déclaration de bris de meubles. D'autres cris d'enfant lui répondaient. Fanny s'était levée brusquement dans une agitation telle que Jacques crut bon de la retenir. « Oh, je te reprends une sang-froid. Reste ici. » Il lui serrait fortement le poignet et l'obéit à cette autorité. Elle ne le suivit pas, mais quand il fut parti, une expression de rage enfantine et terrible se répandit sur son beau visage. Cependant qu'elle aussi, comme les petits là-bas, brisait des objets autour d'elle et éclatait en sanglots. C'est dans cet état qu'il la retrouva et il en fut bouleversé. « Mais ma petite Fanny, tu vas te rendre malade !» Et il serra dans ses bras, la dorlota comme une pauvre petite chose fragile. Ce n'est pas sérieux, voyons, chère Fanny, ce n'est pas sérieux. Elle finit par se calmer, par pouvoir prononcer quelques paroles. C'est épouvantable, on a pu l'entendre, nos invités. Mais non, assure-toi. L'avez-vous corrigé au moins, cet abominable François ? Non, je lui ai dit. C'est vrai, François, ton papa reviendra dans ton beau château, et je lui dirai que tu as été méchant. Cela l'a fait taire. Ne fallait-il pas le faire taire d'abord ? N'est-ce pas votre avis ? Oh, vous avez toujours raison, Jacques, acquiesça Fanny, d'une voix subitement étrangement douce, et elle tamponna ses yeux aux belles paupières meurtries. Tout ceci, fit-il, est encore la faute de cette Fraulein stupide qui s'amuse à exciter entre les deux petits garçons. Mademoiselle Hélier me l'a dit, vous verrez qu'il faudra renvoyer Lydia. Jamais, protesta Fanny, c'est moi qui ai choisi Lydia, et Lydia aime trop notre Jaco. Votre mademoiselle Hélier ne pense qu'à Germaine et à son François. Me prenez-vous pour une sonne, darling? Oh, je voudrais tant que ces petits s'entendent entre eux. Vous voulez la chose impossible, petite chérie, mon Dieu. Combien vieille je suis. Alors laissez-moi ma toilette et allez vous habiller, chère. Elle le mit à la porte et elle eut encore une crise quand il fut parti. Puis elle appela Catherine et passa une heure avec sa femme de chambre à réparer le désordre de son désespoir. Chapitre 3. Monsieur et Madame Saint-Firmin. Les joies que procurèrent à Fanny une robe à l'extrême dernière mode, arrivée de la rue de la Paix par le dernier train, l'eurent bientôt accaparée. Cette merveille était de soie jaune, avec tunique de tulle au motif perlé, s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'un vrai fichu de perles descendait sur la gorge, sur l'épaule nue. En bas, dans l'étoffe fendue, apparaissaient les jambes gantées de dentelles de prix, les pieds chaussés de cothurnes aux hauts talons rouges. Avec sa robe jaune, ses cheveux rouges, ses talons rouges, elle avait l'air d'une flamme. Elle eût pu être grotesque, elle était admirable. Et la première, elle s'en fit l'aveu. Le luxe le plus excentrique lui allait à ravir. Au fumoir, elle fut accueillie avec des cris d'extase. Elle se laissait faire la cour avec une aisance captivante qui n'accordait jamais rien, car elle était fort honnête femme. Mais il lui semblait qu'elle ne pourrait plus jamais se passer d'hommage. Dans le grand salon, sur le parquet en marqueterie, datant de Tavannes, elle promenait sa royauté de l'un à l'autre de ses hôtes, distribuant ses grâces avec équité. Le fameux terrain de golf avait valu au mandat de la Beaussière les fréquentations les plus flatteuses. Et nous sommes plus, du reste, à une époque où la fortune du manchon Héron eût pu être un obstacle au triomphe mondain de la noblesse. Les invités ne demandaient même plus si l'on avait des nouvelles d'André. Cela eût paru indécent. Jacques et sa femme étaient considérés comme les véritables maîtres de la roseraie. Tout à coup, Fanny ne prêta plus aucune attention aux histoires de jeu ou aux potins qu'on lui rapportait des derniers tétangos. Les Saint-Firmin venaient d'entrer. Elle ne reconnaissait plus Marthe. Elle ne l'avait pas vue depuis 5 ans. La jeune femme du notaire de Juvisy n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa pâleur était devenue quasi diaphane, on eût dit une blanche image de micelle prête à s'envoler. La simple robe de tulle blanc dont elle était revêtue accentuait encore cette allure d'ange. Fanny ne reconnut point non plus la voix de Marthe quand celle-ci lui dit « Je suis si contente de vous revoir. La voix aussi s'était effacée. Demandez-lui donc pourquoi elle n'est pas alors venue plus tôt, grinça la crécelle du vieux Saint-Firmin qui suivait. Le notaire, lui, n'avait pas changé. C'était toujours le petit vieux à barbiche, sec et sarcastique, jamais tranquille sur ses jambes, toujours sautillant et ricanant, trouvant la vie drôle, amusante, même dans ses pires horreurs, dans ses plus lamentables drames intimes, qu'il connaissait par métier et dont il jouissait en dilettante. On le disait fort riche, spéculateur heureux avec les fonds de ses clients, rendant des services d'argent qui coûtaient cher. Et malgré cela, il vivait en larmes entre son étude de Juvisy et sa petite maison au bord de l'eau, où il tenait enfermée cette jeunesse. Comment Marthe avait-elle pu consentir à épouser cette façon de méchant diable, toujours vêtu de noir et qui avait un rire si désagréable? Le docteur Moutier, un commensal de la Roseraie, prétendit qu'il l'avait hypnotisé. À quoi les hôtes de la Roseraie répondaient que le docteur Moutier, qui était de l'école de Nancy, voyait de l'hypnotisme partout. Sa célébrité avait commencé au procès Hérault, où il avait déposé, en concluant à l'innocence ou tout au moins à l'irresponsabilité de Gabriel Bompard, suggestionné par le criminel. Vous devriez bien l'endormir et lui suggérer d'engraisser, lui dit-on ce soir-là en lui montrant la pauvre petite Madame Saint-Firmin. Le vieux mari, tout en ne cessant de tourner autour de Fanny et en serrant les mains qui se tendaient vers lui, car il avait obligé beaucoup de ceux qui étaient là, expliquait « Ah, chère madame, vous feriez bien de la gronder, un accès de neurasthénie aiguë qui a duré 5 ans, hein. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Ne plus vouloir voir personne depuis 5 ans, ne plus sortir pendant des mois, faire croire que je la tenais séquestrée, s'accorder quelques promenades le soir le long de la rive déserte comme une âme en peine. Mais je lui donne tout ce qu'elle désire, vous savez, elle fait de moi tout ce qu'elle veut, ma parole d'honneur. A-t-on jamais vu ça ? Elle se laisse périr littéralement. Et savez-vous ce que les médecins disent ? Neurasthénie, neurasthénie. Mais qu'est-ce que ça signifie, neurasthénie ? Ça veut dire maladie. Eh bien, puisque vous êtes docteur, monsieur, guérissez-la, sa prolote. Il doit y avoir des remèdes chez le pharmacien. La neurasthénie est une maladie de l'âme, émit le docteur Moutier. Des blagues, tout ça, répliqua l'autre. Et c'est avec ces blagues-là que vous donnez la maladie aux gens bien portants. Quand les médecins n'avaient pas inventé la neurasthénie, personne ne l'avait. On rit, mais déjà le singulier petit vieux s'était tourné vers une grande longue vieille demoiselle, à profil d'oiseau de proie, mais aux yeux bleus très tendres, qui venait d'entrer sans bruit, habillée d'une simple fourreau de soie noire. Elle se glissait modestement dans un coin du salon. « Eh bien, mademoiselle est liée !» s'écria-t-il de son timbre le plus aigu. « Comment va Napoléon Ier ?» Mademoiselle est liée, l'institutrice des enfants, rougit jusqu'aux yeux, car tout le monde s'était mis à rire et elle n'aimait point que l'on raillât le culte qu'elle avait pour les esprits de nos grands morts, avec lesquels elle entretenait des relations suivies par le truchement des tables tournantes et frappantes. À part cette innocente manie, c'était un très noble personnage que cette vieille demoiselle, aux vertus et à la science de laquelle Fanny aimait à rendre publiquement hommage. À table, mademoiselle Hélier se trouva à côté de Saint-Firmin et elle le gronda sévèrement, mais le sarcastique notaire n'empocha point la mercuriale sans tenter de mettre encore les rieurs de son côté. Il éleva la voix pour charger sa voisine de présenter ses excuses à M. de Buonaparte, affirmant qu'il n'avait point voulu offenser personne de l'autre monde, et expliquant qu'il était bien trop prudent pour cela, n'ignorant point que les fantômes, surtout les fantômes des grands hommes, sont très vindicatifs et peu enclins à la plaisanterie. La pauvre mademoiselle Hélier ne savait quelle contenance tenir. Elle était froissée au-delà de tout par les plaisanteries vulgaires de ce méchant homme qui ne croyait à rien et essayait de la faire passer pour une sotte. Avec un tact et un à-propos qui ne lui faisaient jamais défaut, Fanny appela au secours de l'institutrice le docteur Moutier, qui était très calé, lui, comme il convenait à un savant de l'école de Nancy, sur les tables tournantes, les médiums, les esprits et les fantômes. « Vous en avez fait tourner des tables, vous, docteur ?»«
Mais bien sûr, c'est un passe-temps très agréable. »
Il avait l'air de se moquer de lui-même, mais il n'en trouva pas moins le moyen de dire leur fête avec une certaine grâce, aux intelligences moqueuses qui repoussent d'emblée la survie et les manifestations de l'au-delà. Il est passé le temps où nous ne croyions, nous médecins, qu'à ce que nous trouvions sur notre scalpel. Des esprits comme Charcot.
Est-ce que Charcot, de son vivant, s'est entretenu avec Napoléon Ier ?
Interrogea en gloussant l'incorrigible Saint-Firmin. « Parlons sérieusement, » répliqua le docteur.
« Oh non, non !» protestèrent quelques convives. « Pas sérieusement, pas sérieusement !»
D'autres, au contraire, encouragèrent l'orateur. « Enfin, vous êtes chrétien. Croyez-vous, oui ou non, à l'immortalité de l'âme ? Ou êtes-vous victime, comme M. Saint-Firmin, d'un grossier matérialisme qui ne lui permet point de comprendre que la forme des choses et des êtres n'est qu'une apparence variable selon les sens et les facultés de chacun. La forme peut disparaître, l'enveloppe visible périr, mais la force qui les soutient, elle, ne périra point. Et puisqu'elle continue d'exister, pourquoi ne se manifesterait-elle pas ?
« Par des tables tournantes ?» interrogea Jacques, à la manière ironique. « Mais pourquoi pas ?
Par des choses, par des coups, enfin par un déplacement de choses visibles qui attestent l'existence des formes invisibles. »«
La maison hantée !» s'écria-t-on. « Bouh, docteur, vous nous faites peur !»«
Méphistophélès va !» reprit Jacques. « Regardez-moi la bonne figure de Papagâteau de notre illustre Moutier, » continua-t-il, « et dites-nous, si l'on se trouverait jamais, qu'il est à tu et à toi avec le diable. »«
Oh, mes prétentions ne vont pas jusque-là, » protesta le docteur en tapotant drôlement ses favoris poivre et sel qui encadraient avec soin sa bonne face poupine de sympathique savant à lunettes. Tout de même, nous arrivons dans certaines circonstances à manier les formes invisibles, presque avec la même facilité que nous tâtons le pouls à un malade.
Il n'était point dans l'intention de la maîtresse de maison de laisser longtemps ce brave docteur trotter sur son cheval favori, et elle se disposait à profiter de l'entrée du second service pour faire dévier la conversation, quand, tout à coup, on entendit une voix longue blanche, une pauvre voix lointaine, qui disait
« Mais les fantômes, docteur, est-ce que vous croyez aux fantômes ?»
Toutes les têtes se tournèrent vers Madame Saint-Firmin, qui avait parlé, et à laquelle on avait pu répondre qu'il suffisait de la regarder pour y croire. Chapitre 4. Il y a des gens sérieux qui croient aux fantômes.
J'avoue que je n'en ai jamais vu, répondit le docteur, mais je me garderai bien d'en nier l'existence. D'autres qui sont plus savants que moi en ont vu, et ma foi, je ne comprendrai pas pourquoi on ne les croirait pas quand ils ont la valeur expérimentale d'un William Crookes, par exemple. Je vous cite celui-là parce que c'est un des plus illustres. Il n'est pas une science qui ne doive une découverte à cet esprit sagace. Les travaux de Crookes sur l'or et sur l'argent sont l'application du sodium au procédé d'amalgamation, sont utilisés dans tous les placets d'Europe et d'Amérique et d'Australie. À l'aide de l'héliomètre de l'observatoire de Greenwich, il a pu, le premier, photographier les corps célestes, et ses reproductions de la Lune sont célèbres, ainsi que ses études sur le phénomène de la lumière polaire, sur la spectroscopie. Et Cooks a aussi trouvé le thallium, sans compter la plus formidable découverte de toutes, le quatrième état de la matière. Ce n'est donc pas un hurluberlu. Eh bien, ce savant a aussi photographié les fantômes. Oh, non, vous voulez rire, s'exclama Jacques. Mais le docteur s'amuse de nous, dit Fanny. Mais pas le moindre du monde, osa protester Mademoiselle Cellier, c'est bien connu. C'est historique, exprima Moutier, et je ne me moque de personne. William Crookes s'est livré pendant 10 ans à l'étude des manifestations spirites, construisant pour les contrôler scientifiquement des instruments d'une précision et d'une délicatesse inouïe. Assisté d'autres savants aussi rigoureusement méthodiques que lui-même, il opérait dans son propre laboratoire, entouré d'appareils électriques qui eussent rendu impossible ou mortel toute tentative de supercherie. Dans son ouvrage « Recherche sur le spiritualisme », Crookes analysa les divers genres de phénomènes observés, mouvements du corps pesant, exécution d'airs de musique sans contact humain, écriture directe, apparition de mains en pleine lumière, apparition déformée de figure, et enfin la photographie de l'esprit de Cutting King.
Mais est-ce qu'il a photographié Napoléon Ier? Grinça encore la crécelle de Saint-Firmin.
« Ah, oh, assez, assez !» lui cria-t-on. Mais il insistait si drôlement que Fanny elle-même ne put que lui pardonner.
« Vous comprenez, moi, parmi les morts, il n'y a que Napoléon Ier qui m'intéresse. Je voudrais savoir ce qu'il fait là-haut, entre ces deux femmes, Joséphine et Marie-Louise. Mademoiselle Hélier, je vous en prie, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de vous trouver seule avec lui, demandez-lui un peu comment il s'arrange. »
Alors, William Crookes a photographié des fantômes, reprit soudain la voix lointaine et blanche de la pâle Madame Saint-Firmin.
Mais oui, madame, répliqua simplement le docteur Moutier.
Hé, il n'y a pas que lui.
Mais comment peut-on photographier de purs esprits? Demanda une vieille dame intéressée mais sceptique.
C'est que ces purs esprits, madame, répondit le docteur avec une conviction tranquille, et je vous cite là l'opinion et l'explication de gens qui n'ont jamais passé pour des imbéciles, c'est que ces purs esprits ne sont point dénués entièrement de forme. Il leur reste une forme généralement invisible à nos yeux, impalpable dans les conditions ordinaires, mais qui n'en existe pas moins, et que l'on appelle le père-esprit.
C'est trop d'esprit pour moi, déclara le notaire.
Mais on le fit taire encore, et tout le monde fut d'accord pour réclamer du docteur des renseignements sérieux sur le père-esprit.
Eh mon Dieu, qu'est-ce qui ne connaît pas à notre époque le Père Esprit ? Osa encore faire entendre, outré à la fin de tant d'ignorance, la timide mademoiselle Hélier.
Moi, à moi, moi, lui répliqua-t-on en riant d'un bout à l'autre de la table.
Mademoiselle Hélier a bien raison de s'étonner, reprit le docteur. Le Père Esprit est aujourd'hui à la base de toute science psychologique, et la religion elle-même, qui en a besoin pour expliquer ses apparitions, se garde bien de le nier. C'est une substance infiniment ténue, intermédiaire entre la matière et qui suit après la mort en conservant la forme dernière que lui a conservée la matière. D'où la reconnaissance possible dans certaines conditions d'exaltation magnétique des morts par les vivants. Y êtes-vous ?
Comme c'est simple, s'écria-t-on en forçant un peu les rires. Mais ces rires se turent tout à coup, car il se passait un petit incident là-bas au bout de la table. La petite madame Saint-Firmin venait tout simplement de glisser sur le parquet. On se précipita, on la releva, on voulut la transporter dans une chambre, mais revenue presque aussitôt à elle, elle manifesta, avec une étrange énergie, la volonté de ne point quitter la salle.
« Oh mon Dieu, j'ai eu un petit étourdissement. N'en parlons plus, excusez-moi. »
Et elle reprit sa place à table. On était naturellement assez émus autour d'elle, et comme le docteur s'empressait,
« Ah, vous pouvez la soigner, » lui lança Fanny. « C'est vous qui êtes cause de tout avec vos histoires de trépassés. »
« Mais c'est vous qui me les avez demandés, madame !» Et se tournant vers la pauvre Marthe, « Et puis c'est madame qui a insisté !» Mais la regardant avec attention, « Mais pourquoi vous attardez, mon enfant, à un sujet de conversation qui vous est sans doute désagréable ?»«
Non, il ne m'est pas désagréable du tout, je vous assure. »
Et Marthe disait cela d'un certain air égaré, en regardant son mari qui paraissait furieux de l'incident et ne trouvait pas de terme assez accablant pour sa femme dans les excuses qu'il fournissait à madame de la Boissière et à Jacques.
« Bon, on ne sait pas ce qu'elle a. Par instinct, on dirait qu'elle rêve, puis elle passe des heures en prière. Elle vit un bigote, ma parole, elle ferait bien mieux de prendre ses jus de viande. »
Chapitre 5. Pendant que les uns jouent au bridge ou au poker, les autres interrogent les esprits.
Elle doit manquer aussi de distraction, cette petite. Envoyez-la nous donc.
Oh, madame, vous êtes bien bonne, mais elle ne mérite pas vos bienfaits.
Fanny réclama d'autorité quelques bonnes histoires de chasse pour faire fuir les revenants. Et le dîner, dont la gaieté avait paru un instant compromise, s'acheva dans la bonne humeur générale. Cependant, Marthe avait retenu près d'elle le docteur, et ils ne cessèrent leur confidence que lorsqu'on passa au salon.
« Que vous disait-elle donc de si intéressant ?» demanda madame de la Bossière au docteur Boutier quand il eut installé ses joueurs de poker et de bridge.
« Non, ne souriez pas. J'ai une requête à vous proposer de sa part. »«
Mais dites, elle voudrait faire tourner une table. »«
Non, oui, c'est comme je vous le dis. Elle est malade. »
Mais elle est venue ici pour faire tourner des tables.
Tenez, je parie qu'elle en parle déjà à mademoiselle Hélier.
La jeune femme et la vieille demoiselle étaient dans l'instant assez curieuses à considérer. Mademoiselle Hélier, fort agitée,
semblait fuir une prière que l'autre lui adressait avec une ferveur enfantine.
Après tout, exprima Fanny, si ça peut lui faire plaisir et si elle décide, cette vieille toquée les liée, que l'on s'assied à mes tables pour jouer au bridge ou pour les faire tourner, je n'y vois aucun inconvénient, moi.
Et à moi, cela pourra me servir à étudier d'un peu près ce troublant tempérament qui me paraît susceptible d'hypnose et que pourrait peut-être faire un excellent médium.
Alors c'est cela, vous allez la rendre folle tout à fait, ou la sauver.
Elle se trouve en ce moment très visiblement sous une influence extraordinaire dont nous ignorons la nature. Elle a certainement une arrière-pensée que je ne connais pas et qu'il serait peut-être intéressant de pénétrer pour la guérir.
La séance ne sera pas inutile. Tenez, elle entraîne Mademoiselle d'Emélier.
Ah, chère madame, vous savez qu'elle a une petite peur folle de son mari. Il faut que le mari ne sache rien. Alors elle compte sur vous pour que vous l'accapariez.
C'est bien, je me charge du mari, accorda madame de la Boissière, mais vous me raconterez tout ce qui s'est passé, vous me le promettez.
Tout, je vous le promets.
Ah, dites-moi, où serons-nous le plus tranquille?
Oh, pour évoquer le diable. Mais il faut demander ça à mademoiselle Hélier. Elle vous prêtera peut-être sa chambre.
Et Fanny quitta le docteur en riant. Sur le seuil du fumoir, elle rencontrait son mari et lui racontait tout.
« Oh, mais nous allons voir ça !» fit Jacques, très amusé.
« Mais je me suis chargé du Saint-Firmin.
Ne t'inquiète pas, il vient de consentir à faire un quatrième. »
Mademoiselle Hélier, Marthe et le docteur Moutier avaient déjà disparu.
« Oh, le plus fou des trois, c'est certainement le docteur, émit Fanny.
Ça, quand les savants se jettent dans le spiritisme, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
Vous y croyez, vous, Fanny, au fantôme du professeur Cooks?
Non, je le crois qu'en vous, my dear. Et vous n'avez pas l'air d'un spectre, petite chérie. »
Elle pria Jacques de l'attendre, s'assura que ses hôtes n'avaient point besoin d'elle et revint le trouver. Ils se renseignèrent sur le chemin suivi par les fugitifs, traversèrent tout le château en courant et en riant comme des écoliers. Enfin, ils reprirent leur sérieux au moment de frapper à la porte de l'appartement de Mademoiselle Hélier.
« On peut entrer, c'est nous !»
La porte s'ouvrit et ils aperçurent l'étrange face hostile de Mademoiselle Hélier, dont les yeux bleus, ordinairement si doux, semblaient lancer des flammes.
« Ah, je le savais bien, » fit-elle, « on veut se moquer de moi. »«
Mais non, » supplia Fanny, « je vous assure, mademoiselle, ma bonne demoiselle,
on sera bien sage, on fera tout ce que vous voudrez. » On se tiendra tranquillement dans un coin.
Elle dut les laisser pénétrer chez elle, mais elle les pria assez sèchement de rester dans son petit salon qui était plongé dans l'obscurité.
Ne bougez pas, ne parlez pas, c'est tout ce qu'on vous demande.
Elle les laissa, passant dans sa propre chambre, dont on apercevait une partie faiblement éclairée par la lueur falote d'une lampe invisible qui avait dû être reléguée dans quelque coin. Un assez lourd guéridon d'acajou, soutenu par un pied à trois griffes, avait été tiré au milieu de la pièce. D'où ils se trouvaient, Jacques et Fanny ne voyaient encore ni le docteur ni Madame de Saint-Firmin. Ils n'apercevaient, se mouvant avec des gestes silencieux dans la pénombre, que Mademoiselle Hélier, dont la figure avait repris cet air hermétique
qui se répand ordinairement sur le visage des vivants quand ceux-ci interrogent sérieusement les morts. Et en vérité, Mademoiselle Hélier faisait toute chose sérieusement. Combien sérieusement venait-elle de placer 3 chaises autour du guéridon d'acajou? Jacques et Fanny avaient bien envie de pouffer de rire, mais ils tenaient trop à assister à la séance jusqu'au bout pour se laisser aller à cette manifestation intempestive. Du reste, ils ne tardèrent pas à être impressionnés eux-mêmes par l'apparition, dans le cercle de la lumière falote, de la figure douloureuse de Marthe et de celle du docteur, lequel semblait étudier sa malade avec une curiosité aiguë. De toute évidence, le savant était beaucoup plus préoccupé par le diagnostic qu'il lui serait peut-être possible d'émettre à la suite de cette exceptionnelle expérience que par les vocations prochaines des esprits. Marthe semblait souffrir réellement. Elle se laissait conduire sans résistance par l'institutrice, obéissant à ses moindres gestes, tombant sur sa chaise, allongeant au-dessous de la table ses mains diaphanes. Mademoiselle Hélier lui fit écarter les doigts. Puis l'institutrice s'assit à son tour, et le docteur en fit autant. Eux aussi allongèrent les mains. Dans cette lumière avare, les deux silhouettes fantomatiques aux gestes de rêve de Marthe et de Mademoiselle Hélier, l'aspect extraordinairement sérieux du docteur Moutier, et enfin le silence prolongé qui accompagnait l'immobilité des 3 partenaires, tout concourait à donner à cette scène une allure de bizarre mystère qui, après avoir y faire éclater de rire Jacques et Fanny, les retint bientôt au fond de leur obscurité, étonnés et attentifs. 5 minutes se passèrent ainsi, au bout desquelles quelques craquements se firent entendre dans la table.
« Je crois bien que l'esprit est là !» fit à voix basse Mademoiselle Hélier. « Puisque c'est vous qui l'avez évoqué, voulez-vous l'interroger ? Il répondra peut-être. »«
Je veux bien !» reprit Marthe dans un souffle. La pauvre jeune femme était agitée de frissons. Sur la table, on voyait ses mains trembler.
« Demandez-lui, qui êtes-vous ? »
La voix blanche de Marthe demanda « Qui êtes-vous ? » Et patiemment l'on attendit. Au bout de quelques secondes, la table se décida et, se soulevant sur 2 de ses griffes, retomba et resta immobile.
« Ah ! » fit l'institutrice. « Maintenant, continuez d'épeler à voix haute, madame. »
Mais l'agonisante voix de Marthe reprit « B, C, etc. » À la lettre N, la table craqua, sembla hésiter, puis se souleva à nouveau et retomba.
A-N, constata l'institutrice, continuez, madame, ne vous effrayez pas.
Mais Marthe claquait des dents. Cependant, elle eut la force de recommencer l'alphabet. Cette fois, le guéridon se mit en mouvement à la lettre D.
A-N-D. André ? Fit le docteur.
Oui, André, soupira Marthe.
Mon Dieu ! Gémit Mademoiselle Hélier. Si c'était Monsieur André de la Bossière, il serait donc mort ?
Et ils continuèrent patiemment leur interrogatoire. La table répondit André de la Bossière. Mademoiselle Ellie se montra aussitôt dans un tel état d'exaltation que le docteur dut la prier violemment de se calmer. « Je crains que la séance ne puisse se prolonger, » fit-il, en montrant Marthe qui avait maintenant une figure de spectre et les yeux hagards. « Dépêchons-nous, nous n'avons pas une minute à perdre. »« Docteur, » fit la voix très émue de Jacques au fond de l'autre pièce, « mon avis est qu'il faut en finir. Vous voyez bien que cet enfant va encore se trouver mal. »
« Non, non, » répliqua aussitôt Madame Saint-Firmin, « je serai forte, laissez-moi l'interroger. »
Et disant cela, les mains toujours étendues sur la table, elle ouvrait les yeux immenses qui se fixaient sur la pénombre, comme s'ils voyaient ou comme s'ils cherchaient à voir une forme invisible pour tous. Puis, sans se soucier de ce qui était là, auquel elle révélait au moins une intimité d'âme avec le défunt que l'on avait à peine osé soupçonner, elle demanda tout haut,
« Si c'est vous qui êtes là, André, mon ami, mon frère bien-aimé, dites-nous ce qui vous est arrivé. »
À la suite de quoi il y eut encore un long silence, puis de nouveaux bruits dans la table, et soudain elle frappa de façon fort nette des coups détachés pendant qu'on entendait la voix basse et haletante de Marthe qui épelait l'alphabet A, B, C, D. À chaque coup de la table, la voix de Marthe s'arrêtait une seconde pour reprendre plus bas et plus défaillante. Et Mademoiselle Ellier lisait les lettres, formait les syllabes. La table disait « J'ai été assassiné. »
« Assassiné !» répéta râlante Marthe, et elle glissa dans les bras du docteur qui la surveillait.
« Ah, voilà assez de cette mauvaise plaisanterie !» s'écria la voix irritée de Jacques, et il fit irruption dans la chambre, suivi de Fanny qui répétait
« Mais ils vont la rendre folle ! Ils vont la rendre folle !»
Chapitre 6 Où le docteur Moutier parle raison.
« Oh, monsieur, je ne suis pas folle !» protestait doucement Marthe, à qui le docteur faisait respirer des sels et qui, d'un geste inconscient, repoussait le flacon. « Surtout ne dites rien de tout cela, mon mari. S'il savait, il me tuerait. »«
Il vous tuerait, mais vous voulez rire, ma pauvre enfant. C'est lui qui, s'il vous entendait, rirait. » C'était le docteur qui parlait ainsi en pressant dans ses mains les mains de Marthe. À ce contact réchauffant et solide, à cette bonne voix bien vivante, Marthe semblait reprendre des forces, revenir à la vie réelle des gens et des choses.
« Et que voulez-vous dire, docteur ? » demanda-t-elle.
Ben, « Je veux dire que je viens de vous étudier. Je sais maintenant quelle est votre maladie, allez. Elle est tout entière dans cette petite cervelle-là. Il y a longtemps que vous vivez avec cette idée que votre excellent ami, M. André de la Beaussière, est mort assassiné. Avouez que c'est une idée dont vous ne pouvez pas vous défaire, qui vous poursuit partout. Avouez que c'est elle qui a fini par vous pousser ici pour demander cette séance de table tournante où vous espériez bien qu'elle apparaîtrait enfin exprimée en dehors de vous-même. Mais, ma pauvre petite, il ne faut pas vous dissimuler une seconde que c'est vous-même qui avez répondu à vos propres questions. Entendez-vous bien, inconsciemment, certes, mais c'est vous qui avez fait remuer la table aux bons endroits sans vous en apercevoir. Ah, ça, je ne le crois pas une seconde, s'écria Mademoiselle Hélier, dont l'irritation éclata sans pudeur. C'est l'esprit qui était là, c'est l'esprit qui a frappé, et rien ne me retirera maintenant de la tête que M. de la Beaussière a été assassiné. Eh bien, gardez donc cette idée-là dans votre tête et qu'elle n'en sorte pas. C'est tout ce que l'on vous demande, répliqua Fanny avec brutalité. Si l'on vous écoutait, vous nous rendriez tous fous ici, avec vos histoires de l'autre monde. Mais l'autre monde et celui-ci ne font qu'un, madame. Oh, je vous en prie, mademoiselle, commanda la rude voix de Jacques. Ce n'est pas le moment de faire un cours de spiritisme. Vous devez vous rendre compte que Madame Saint-Firmin est très malade, et par votre faute. Chut, elle pleure, dit le docteur. Laissez-la pleurer, cela lui fera du bien. Marthe était en proie, en effet, à une véritable crise de larmes et de sanglots. Quand elle fut un peu calmée, le docteur pria qu'on le laissât seul avec la jeune femme, ce que l'on fit aussitôt. Jacques et Fanny se retrouvèrent en pleine lumière, et Fanny s'étonna de la pâleur de son mari. « Mon Dieu, vous voilà aussi pâle que Madame Saint-Firmin. » « Oui, cette idée que mon malheureux frère a pu être assassiné m'a complètement bouleversé. » « Mais vous n'allez pas être aussi stupide que cette petite. Remettez-vous, darling, c'est stupide. Ah, quelle histoire, si j'avais su. Mais vous ne croyez pas aux tables tourmentes, petite chérie. » « Pas plus que vous. Et je suis sûr que le docteur ne fait semblant d'y croire que pour se rendre intéressant auprès de sa clientèle féminine. » Cependant, quand la table s'est soulevée et que l'alphabet a annoncé André, je ne vous cache pas que j'en ai eu froid jusque dans les moelles. Réchauffez-vous, réchauffez-vous, en embrassant votre petite femme, petite chérie. Il lui baisa la main et ils retrouvèrent Saint-Firmin qui s'inquiétait justement de l'absence de sa femme. Fanny lui apprit qu'elle était allée voir dormir les enfants avec Mademoiselle Hélier, et il se remit à son bridge. Ce soir-là, quand tous les invités furent partis et que les hôtes eurent regagné leurs appartements, le docteur, Jacques et Fanny se retrouvèrent dans le boudoir. « Eh bien, demanda Fanny, va-t-elle mieux ?»« Oh ! Elle est plus malade que je ne le croyais, répondit le docteur. Elle a des apparitions. Des apparitions. Enfin, elle a eu une apparition. André lui est apparu. Non, pas plus tard qu'hier, dans son jardin au bord de l'eau. Elle l'a très bien reconnu. Et André lui a parlé. André lui a dit qu'il avait été assassiné. Là-dessus, elle s'est trouvée mal et quand elle est revenue à elle, André avait disparu. « Tu penses, » dit Jacques. « Mais alors, elle est enfermée, la pauvre petite, » dit Fanny. « Non, elle n'en est pas là. Je l'ai interrogée très à fond. » Et elle se rend très bien compte qu'elle a pu être victime d'une hallucination, d'autant plus que le fantôme traînait derrière lui un bruit de chaîne, comme dans toutes les histoires fantastiques de revenants. Alors elle se dit maintenant qu'elle a eu peut-être une imagination. Et savez-vous pourquoi elle est accourue au golf aujourd'hui? Parce qu'elle a peur maintenant de rester seule avec son mari. Et je vais vous dire autre chose, entre nous. Quelque chose qu'elle ne m'a pas avoué, qu'elle ne m'a pas confiée. Cette petite est à persuader qu'André a été assassiné par son mari. Il y a eu certainement une histoire terrible au moment du départ d'André, entre elle, André et le vieux Saint-Firmin. Quoi qu'il en soit, je lui ai conseillé de venir ici le plus souvent possible, lui disant qu'elle y trouvera de vrais amis. Tâchez de la confesser, et nous tâcherons de la guérir. Quand nous connaîtrons toutes les données du problème, nous le résoudrons raisonnablement, et nous chasserons de cette pauvre tête tous les fantômes qui la hantent. Mais dites donc, docteur, fit entendre Fanny, vous oubliez que vous croyez vous-même aux fantômes. Non, je ne crois pas aux fantômes qui traînent des chaînes derrière eux, répondit le bon docteur avec un large sourire. Et voyez-vous, madame, chaque fois que je puis expliquer une manifestation de l'au-delà par un phénomène de chez nous, comme par exemple par l'état d'esprit de cette petite, je n'y manque jamais. D'abord, c'est plus facile, et ça ne m'empêche pas de dormir. Allons-nous coucher ?